Soirée de lancement de campagne, non à la RIE3. Organisée par Ensemble à gauche et Solidarité. Jeudi 19 janvier depuis le Café Gavroche à Genève. Deuxième partie. Questions-réponses avec la salle. En compagnie de Pablo Cruchon et Jean Batou. Retrouve les podcasts et d'autres interventions quant à la RIE3 sur www.libradio.org.
Avec mon copain de droite, donc c'est déjà. Et du coup, il m'a déposé deux arguments. Il m'a dit que lui, selon ce qu'il avait vu, c'était quelque chose qui allait aider les PME. Moi, je me souvenais que c'était seulement pour les grandes entreprises. Est-ce que tu peux me confirmer qu'en fait, les PME n'ont rien à gagner à la RIE3?
Alors, les PME, directement, n'ont rien à gagner. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 82% des PME ne paye pas d'impôts ou moins de 5 000 francs par an. Or, il va y avoir une taxe supplémentaire sur compensatoire sur la masse salariale de 0,22%. Alors, j'ai fait une simulation, une PME qui a 15 employés, qui a 1 million de masse salariale, ça va lui coûter 2 200 francs d'impôts supplémentaires. Et c'est à peu près ce qu'elle gagnerait si elle payait 5 000 francs d'impôt sur le bénéfice, puisqu'elle verrait son impôt partagé par deux, mais elle aurait une hausse de 2 500 francs. Donc, directement, je crois qu'on peut dire honnêtement, et d'ailleurs, ils ne le contestent pas, les PME vont rien y gagner. Leur argument, c'est de dire qu'indirectement, ils vont y gagner, parce que si on n'accepte pas la RIE3, les multinationales vont s'en aller, et que toutes les petites entreprises qui font les cafétérias pour les multinationales, les services, les petites boîtes d'informatique, etc., vont perdre des commandes. Et ça, la réponse à ça, à mon avis, c'est de dire, attendez, d'abord, les multinationales qui risquent de s'en aller, ce n'est pas les multinationales, c'est des sociétés qui ont l'essentiel de leurs activités à l'étranger et qui pour ça bénéficient d'un statut spécial. Ce n'est pas les multinationales. Le groupe Richemont, qui vient de licencier chez Vacheron Constantin, etc., c'est une multinationale, comme l'UBS est une multinationale. Ça, c'est des entreprises qui ont une grande partie de leur activité en Suisse et qui donc n'ont pas de statut spécial. Elles vont voir leurs impôts baisser de 24,2 à 13%, voire moins, avec la déduction sur les intérêts notionnels, peut-être à 10%. Vous imaginez le profit que c'est. Donc, ces entreprises-là devraient très largement, si on croit qu'elles vont réinvestir, ce que je ne crois pas, si on croit qu'elles vont réinvestir dans l'économie, relancer l'économie, elles vont entraîner des redistributions très importantes aux PME, même si leur taux d'imposition baissait de 24,2 à 18%, ce qui serait, si tout le monde était à 18%, on aurait plus de recettes fiscales, si on était passé de 24 à 18. Si on passe à 16, on garde les mêmes recettes fiscales. Les multinationales augmentent, enfin les sociétés à statut augmentent, mais toutes les autres sociétés diminuent. Donc, dans le fond, la réponse qui est unifions les taux, tout le monde doit payer le même taux. Ben ça, c'est la demande de l'Union européenne et de l'OCDE, c'est la pression sur la Suisse. Et évidemment, normalement, il aurait fallu mettre tout le monde à 24,2. Bon, ouais, c'est logique, unifions les taux, supprimons les statuts spéciaux. C'est ce que demandaient l'Union européenne et l'OCDE. À part ça, c'est 33% en Allemagne, donc 24,2%. C'est très cool. Bon. Ouh, 24,2%, ils vont tous faire. Ok, allez-y à 18. C'est un cadeau formidable, 18. Voilà ce que j'aurais dit si j'étais le Parti Socialiste. Ça aurait été un compromis. Non, reste pas bloqué sur 24,2 pour tout le monde. Allez, on est à 18. Non, 16, c'est déjà complètement révolutionnaire. 16, c'est neutre. 24, 2 à 16, C'est génial pour la plupart des entreprises, y compris pour les PME qui payent des impôts. Bon, c'est génial. Alors, est-ce que les grandes vont pas, est-ce que les sociétés à statut vont partir? 16% vont aller où? Vont aller en France? Je ne sais plus combien c'est. 30 en Allemagne, 33, elles vont aller où ces sociétés? Donc 16, à mon avis, pour l'essentiel, elles vont rester. Il y en a peut-être une ou deux qui va combiner, se tirer, etc.
C'est vu en Europe, dans les taux compétitifs par rapport à la Suisse, même à 24, il n'y a que l'Irlande. Et l'Irlande, actuellement, l'Union européenne fait pression pour qu'elle augmente ses taux parce que c'est trop bas. Et la population est coincée parce que le gouvernement ne veut pas à cause des multinationales. Donc, de toute façon, les Russes vont taper dessus et à terme, c'est fini l'Irlande parce que l'Union européenne ne veut pas. Sinon, les taux compétitifs avec la Suisse, c'est quoi? C'est Monténégro. Vous avez vu les infrastructures publiques au Monténégro, disons, je peux vous montrer. C'est la Bulgarie, la Hongrie, Roumanie, c'est des pays avec des niveaux d'infrastructures extrêmement bas, avec des niveaux de formation extrêmement bas. La Suisse est première en termes de compétitivité mondiale, en termes d'attractivité pour les entreprises, depuis 8 ans, selon les trucs du WEF. Et la fiscalité, c'est le quatrième critère dans ce classement-là, selon le WEF. Donc on a, c'est un mensonge de dire qu'elles vont partir. Peut-être qu'il y en a un certain nombre qui vont partir, mais c'est aussi, comme tu disais, pas des grosses productrices. C'est, certaines, c'est même juste des boîtes aux lettres. Il faut le dire, il y a certains, c'est juste des boîtes aux lettres. Voilà. Et même si elle partait, et là je pense qu'on peut aller encore plus loin, et même si elle partait, si on prend ce genre d'emploi, c'est pas ce genre d'emploi dont on a besoin à Genève. On a besoin d'un vrai tissu économique où il y a des emplois pour les personnes. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pas un vrai tissu économique clair qui repose sur les besoins de la population. C'est des entreprises extrêmement volatiles qui font ce qu'elles veulent et puis qui font, en gros, font venir des spécialistes économiques, par exemple, pour analyser le marché en Asie. Mais qui crée très peu d'emplois chez nous et très peu d'emplois dont la population a besoin. En fait, je pense que c'est important. Tu avais une deuxième question?
Oui, alors la deuxième question que j'ai, c'est qu'il m'a dit que, en gros, si on maintenait l'imposition telle qu'elle est actuellement, donc, ça permettait aux entreprises de faire moins de bénéfices qu'elles auraient pu utiliser. Pour, par exemple, se moderniser, pour engager
nos
personnes, etc.
Voilà, donc ça c'est un argument, c'est un argument qui est totalement dans la doxa néolibérale, c'est de dire que moins les entreprises payent d'impôts, plus elles investissent et elles créent de l'emploi. En réalité, si vous regardez même au niveau des cantons suisses, c'est pas dans les cantons où la fiscalité est aujourd'hui la plus basse sur les entreprises que la croissance économique est la meilleure. Le canton de Vaud a eu une croissance forte à une époque où la fiscalité sur les entreprises était quand même relativement élevée, était assez proche du 24,2, je crois que c'était 22,5. Et ils ont eu une croissance très largement supérieure à celle de la moyenne suisse, avec des cantons qui avaient des taux plus bas. Donc ça dépend, c'est ce qu'a dit Pablo, la fiscalité est un aspect. Ensuite, on a le sentiment que de plus en plus, les entreprises qui vont avoir une baisse d'impôts, elles vont donc avoir une augmentation de leurs bénéfices. Qu'est-ce qu'elles vont faire de leurs bénéfices? Elles peuvent soit l'investir, soit le distribuer en dividendes. Nous, on pense qu'elles vont surtout augmenter la distribution des dividendes. Et en grande partie, les grandes entreprises suisses, leurs actionnaires principaux ne sont pas domiciliés en Suisse. Il y a le Qatar, etc. Ce qui veut dire qu'ils ne seront pas imposés, ces dividendes. Ils partiront dans des pays de résidence où ils ne seront pas imposés pour les recettes publiques suisses. Donc, quelque part, cette idée que c'est un pari, personne ne sait, mais cette idée qu'en baissant les impôts, ils vont investir, aujourd'hui, c'est très discutable parce que investir, ça ne coûte rien. Vous pouvez emprunter sur 20 ans à 0% si vous êtes une grande entreprise. Emprunter en francs suisses, ça ne coûte rien aujourd'hui. Donc, pourquoi elles ne le font pas? Pourquoi elles ont besoin de fonds propres, de bénéfices propres pour investir? Si elles avaient des investissements qui rapportent, elles le feraient aujourd'hui. Même l'État, ils disent, on doit investir aujourd'hui, ça ne coûte rien. Donc, juste là, c'est un argument pas convaincant.
Si jamais dans le tout ménage, là, il y a un graphique qui est intéressant, c'est l'évolution des dividendes, des nombres d'emplois et des salaires depuis 2009 jusqu'à 2016. les dividendes, donc ce qu'on redistribue aux actionnaires, ça a augmenté de 60% depuis 2009. Par contre, l'emploi, même pas 10%, c'est 8%, et puis les salaires, c'est 5%, si on prend la courbe. On voit bien qu'il n'y a pas de connexité entre ce qui est redistribué aux actionnaires, les bénéfices, disons, et ça. La deuxième chose, c'est il y a eu une étude à Londres qui montrait que 76% des actionnaires étaient étrangers au pays des entreprises. Et typiquement, un des bénéficiaires de la RIE3, ce sera le Crédit Suisse, par exemple. Le Crédit Suisse, un des principaux actionnaires, c'est un des cheikhs du Qatar qui ne va pas du tout réinvestir en Suisse ou peut-être dans d'autres banques en Suisse, mais disons qu'il n'y a pas de processus logique d'investissement. Et juste là-dessus, ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder qui c'est sur les emplois. Ça, c'est quand même le gros argument qui est donné par la droite, hein, c'est la destruction des emplois. Et surtout, les PME, elles créeraient des emplois si on leur donnait. Qui c'est qui a créé le plus d'emplois depuis 10 ans en Suisse? C'est l'État. L'État est le premier créateur d'emplois en Suisse depuis 10 ans. Ils disent tous, ouais, c'est les banques, ouais, c'est les PME. C'est faux. Comme la droite, les études de droite qui l'ont montré, c'est l'État et les investissements publics qui créent le plus d'emplois en Suisse. Et eux, ils veulent assécher cet acteur-là, économique, qui est le plus grand créateur. Et on voit bien, les secteurs bancaires, ils perdent des emplois maintenant. Ça fait, c'est 200, Joël Varone de Ounia disait hier encore, c'est sur les deux dernières années, c'est moins de 200 emplois. Vacheron Constantin, ils ont licencié 200 personnes il y a quelques mois. Merckx et Renault, ils ne payaient pas d'impôts, ça ne les a pas empêchés de partir. Donc on voit bien que ces entreprises-là, ce n'est pas elles qui sont créatrices d'emplois et ce n'est pas elles qui sont créatrices d'emplois sûres pour les gens. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des arguments à donner sur ça pour casser ce phénomène-là. Vraiment. Et à part ça, sur le fait que les entreprises partent, juste il y a un truc de bon sens aux gens. Il faut leur rappeler que les entreprises, elles sont venues parce qu'elles payent le taux maintenant. Elles payent maintenant. Si on refuse de leur faire un cadeau, c'est pas pour ça qu'elles vont partir. Elles vont toujours payer le même taux que maintenant. Avant qu'il y ait une renégociation, ce sera de toute façon à leur avantage de toute façon. Donc il n'y a pas de raison immédiate, elles vont rester comme actuellement si on refuse. Ça, je pense que c'est important de dire dans la population que ces gens, ils s'imaginent qu'elles vont partir immédiatement demain. Or, c'est pas vrai.
Si vous voulez, l'argument, c'est que les entreprises à statut, celles qui ont l'essentiel de leur activité à l'étranger, vont partir. Donc vous avez un autre argument que ceux qu'a donné Pablo, c'est que dans le canton de Vaud, d'après une étude du Crédit Suisse de février 2016, dans le canton de Vaud, les entreprises à statut payaient en moyenne 4% d'impôt sur leurs bénéfices. Et à Genève, en moyenne 11%. Ça, avant la RIE3, puisqu'on avait un statut spécial avec des impôts très bas. Donc de 4 à 11, il y avait 7 points de différence. Logiquement, si vous suivez le raisonnement actuel, ils auraient tous dû partir dans le canton de Vaud. C'est de l'autre côté de la Versoie, c'est près de l'aéroport. Tout le monde nous explique qu'ils vont tous partir à Copet, à Nyon, etc. Pourquoi, avec ces 7 points, ils ne sont pas partis? Et moi, j'ai posé la question parce que je n'y croyais pas mes yeux. J'ai demandé, c'est une étude du Crédit Suisse, j'ai demandé à Dal Busco comment ça se fait. Il était gêné, il dit oui, mais Broulis, il a des combines. Voilà, il a. Je sais pas comment il fait, il a l'arrêté Bonny, il a réussi, voilà. Et je lui dis ok, je ne veux pas savoir comment il a fait, je veux savoir comment vous expliquer que de 4 à 11, nos entreprises à statut ne sont pas parties dans le canton de Vaud, puis que vous nous expliquez que si on était à 16, plutôt que 13,79, quel taux unifié vaudois, avec 2 points et des poussières, ils vont tous partir. C'est idiot. Au contraire, on rétrécit l'éventail si on est à 16, parce que 16, c'est un taux qu'on va peut-être devoir défendre, mais c'est le taux neutre. Et puis, c'est vrai que c'est très convaincant, cet argument. Et j'arrête pas de le répéter, et c'est l'évitement de cette question. Et vous prenez cette étude, elle est en ligne. Crédit Suisse, février 2016, je l'ai même mis sur mon blog à la Tribune, avec une copie du bout de l'étude où c'est dit.
Et puis, juste encore sur la création d'emplois, le leader européen de la création d'emplois, c'est l'Allemagne. L'année passée, l'Allemagne a un taux d'imposition des entreprises de 33%. Parce que, pourquoi ? Parce que l'emploi, il ne dépend pas de l'impôt, il dépend des plans d'industrialisation du pays. L'Allemagne a fait un plan d'industrialisation massif, mais n'a pas joué sur la question de l'imposition. Et c'est là où on change la structure, et là je pense que c'est important pour Genève, parce que ça change la structure de l'emploi, de jouer sur l'imposition. Ça fait qu'on a beaucoup de banques, ça fait qu'on a un certain nombre d'entreprises, et ça ne crée pas massivement de l'emploi. Et ça, je pense que de dire que le leader européen de la création d'emplois, c'est l'Allemagne, alors qu'ils ont 33% d'imposition, c'est un bon argument dans la rue. Disons, les gens, ils se sentent un peu... Ça marche bien, en tout cas. Moi, même à 8h du matin, avec ce qu'ils disent, là, ça convainc. Donc, je pense que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord, donc demain matin, on se retrouve tous sur les stands à 8h du mat, c'est ça ? Vous êtes prêts ? Ah, vous êtes ici. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses. Désolé, on va faire un truc un peu plus sympa à la base, mais mon collègue est malade, donc on ne peut pas faire une mise en scène. Est-ce qu'il y a des questions aussi simplement d'arguments sur les stands, de choses comme ça ? Enfin, comme tu as posé Delphine dans le genre-là, ou même de compréhension technique des mécanismes, ou plus largement sur le... Voilà. Quand est-ce que c'est le prochain stand ? Je vous réponds volontiers.
J'ai une question technique. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est si l'Europe exige une égalité d'imposition, pourquoi est-ce qu'elle tolère la différence entre cantons ?
La différence entre cantons, c'est pas, ça fait pas, il n'y a pas de différence entre des catégories d'entreprises. Il n'y a pas des entreprises qui sont moins taxées que d'autres. Le régime le même s'applique sur le même territoire. Il est diversifié parce qu'on est dans un État fédéral. Mais c'est le cas dans d'autres États fédérales où il y a une part de l'impôt. Je pense qu'en Allemagne, une part de l'impôt est décidée par les Länder et une part par l'État fédéral. Et on peut comprendre que des cantons aient plus de besoins fiscaux que d'autres et donc augmentent leur impôt. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait deux systèmes différents pour deux types d'entreprises différentes. Pourquoi ? Parce que ça attire les entreprises de leur pays. Qui ont toutes les activités à l'étranger et qui viennent mettre leur siège en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Le cas le plus terrifiant, c'est Caterpillar, qui a son centre à Genève, qui est une société à statut et qui a ses activités productrices ailleurs en Europe. Ils viennent de fermer une usine avec 2000 travailleurs en Belgique parce qu'ils ont siphonné tous les bénéfices à Genève, où ils les déclarent à des taux de 5-6%, 7-8%, j'en sais rien, on ne sait pas, chaque entreprise son secret fiscal, et puis en Belgique c'était 30% et quelques. Donc ils ont siphonné les bénéfices à Genève, ils ont fermé Caterpillar Belgique, et puis il y a des pertes en Belgique, puis tous les bénéfices ne payent pas d'impôts à Genève. Donc ça fait vraiment chier les autres grands pays européens et les États-Unis étaient furieux contre la Suisse.
Mais juste là-dessus, c'est pas dit du tout que si on accepte la RIE3 et qu'il y ait la concurrence fiscale qui se mette en route intercontinentale, l'Europe ne dise rien. Ça, c'est pas garanti du tout.
Les taux sont très bas.
Parce que, ouais, les taux seront très bas, ils vont continuer à attirer fiscalement des gens, et c'est pas complètement... qu'on ait un scénario à l'irlandaise, disons, c'est pas complètement ahurissant. Il y a eu des réactions européennes et de l'OCDE suite au projet, à la présentation du projet de la RIE3, donc... C'est trop tôt pour le dire parce qu'on ne sait pas l'application cantonale de toute une série, mais on pourrait avoir une réaction de l'Europe quand même. Pas sur l'inégalité fiscale, mais sur le fait qu'on a vraiment, vraiment trop bas et on fait des concurrences déloyales. En fait.
C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, Sébastien Gay, qui est un des premiers à bosser sur ce sujet, qui nous a, faut le dire, alerté très tôt, et donc c'est un camarade, celui-là, qui est vous. qui est un spécialiste des finances publiques, lui dit ne soyez pas seulement obsédé par les taux, regardez ce qui va se passer avec les déductions. Parce que, par exemple, Zurich a fixé son taux à 18, mais va jouer à fond sur les déductions. Et ça, c'est un truc beaucoup plus pervers, parce que personne ne sait ce que tu payes exactement. Ils ont fixé un plancher cantonal à 10 à Zurich. Et je vous rappelle toujours que la part fédérale, qui est maintenant la part principale, elle n'est pas capée vers le bas. Elle peut plonger à zéro, théoriquement. Donc dans le fond, il faut s'imaginer qu'en Suisse, on va avoir des taux probablement de l'ordre de 10% maximum pour les grandes entreprises.
Ça, juste dans l'explication de la RE3, c'est un truc important, c'est le double phénomène, c'est la réduction de l'assiette fiscale, c'est-à-dire sur quoi on impose. Les déductions, elles permettent de... En fait, par exemple, une entreprise qui paye 1 million d'impôts, elle peut enlever, ne pas déclarer jusqu'à 80% au niveau fédéral ses impôts. Donc elle déclare comme si elle avait gagné 200 000 francs de bénéfice. Et après, il y a le taux qui s'applique. Donc on a deux phénomènes, on réduit l'assiette et on réduit le taux. Et du coup, si on fait le calcul simplement mentalement, on arrive à 2,6% d'impôts. Si on peut réduire l'assiette, on peut ne déclarer que 80%, que 20%. De notre bénéfice, puis qu'on applique 13%, c'est 2,6% d'impôts. Alors il y a des taux, justement, comme on disait au niveau cantonal, ils ont mis des taux défensifs, disons, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas descendre plus bas que ça, mais ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, au niveau fédéral, on pourra quand même descendre, enfin voilà. Mais c'est, tout ça est très opaque et très difficile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une double réduction, l'assiette et le taux, et que ça, en plus, à mon avis, tous les chiffres qu'on donne de pertes sont largement sous-estimés. Par rapport à ça, parce qu'on n'a aucune idée de ça.
Ouais. Moi, je peux vous poser une question d'un tordu de droite. Vous dites que les impôts sur les bénéfices vont baisser et qu'ils vont redistribuer, ils ne vont pas investir, mais ils vont redistribuer en dividendes. Ok, mais ces dividendes vont être taxés comme revenus des personnes physiques. Donc on va récupérer ce qu'on a perdu en bénéfices en impôt sur les dividendes. Ah ah, ce que vous dites à ça. Alors en partie, ils sont à l'étranger.
RIE2.
Mais RIE2, RIE2 est passé par là. Et RIE2 a fixé qu'on n'impose pas la totalité des dividendes. Et on impose que sur 60... Alors, moins que 60%. Maintenant, ça sera 60%. 60% seulement des dividendes, il y a 40% qui ne sont pas imposés déjà. Donc 60% des dividendes seulement sont imposés pour ceux qui résident en Suisse. Donc il y a déjà un mécanisme de sous-imposition des dividendes, qui est le résultat de RIE2, qui a coûté beaucoup plus cher que ce qui était annoncé.
RIE2 devait être neutre fiscalement, théoriquement, et ça nous a coûté, vous dites, le total cumulé de ce que ça nous a coûté, ça va être à 8 ou 9 milliards.
8 milliards.
8 milliards.
8 milliards. Dernier chiffre.
Ouais, année après année.
Là, ils nous disent qu'on aura
un milliard par année.
C'est déjà assez énorme. On peut imaginer ce que ça va être.
Disons, dans la propagande du PS national, ils parlent de 3 milliards par an de pertes. Nous, on estime plutôt à 5 milliards. Les pertes de la RIE. Mais en réalité, personne ne sait rien, pour être honnête.
Par exemple, il y a des mécanismes qui n'ont jamais été chiffrés. Typiquement, les indépendants, les médecins, les dentistes, tous ces gens-là. Actuellement, ils sont taxés comme personnes physiques, comme vous et moi, en gros. Ils ne sont pas en entreprise. Mais là, avec la baisse massive de l'imposition des entreprises, ils pourraient être tentés, pour un certain nombre, à se transformer en entreprise pour baisser les impôts qu'ils vont payer. Même chose pour les gens qui possèdent des immeubles. Les immeubles, les gens possèdent, déclarent sur la fortune, etc. Ils pourraient créer des sociétés immobilières pour payer moins d'impôts. Donc tout ça, ça n'a jamais été chiffré, par exemple, ces transferts-là. Et donc, il y a clairement des choses qui sont sous-estimées.
Par exemple, Gavroche, papa de Mondrian.
Ça, c'était à dire. Bon, moi qui suis actionnaire, je suis plutôt pour faire des emplois.
Bien proche que
c'est une autre question. Toi, en tant que PME, qu'est-ce que tu dis?
je ne sais pas si ça a été discuté, mais est-ce que ça va créer des emplois? C'est un des arguments de droite, justement.
Là, Pablo a un peu répondu sur l'emploi public. Ouais. Ça va surtout détruire des emplois publics. Ouais. Puis dans l'économie privée, on ne croit pas que ça va créer des emplois parce qu'il y aura très peu d'investissements qui seront faits pour créer des emplois, alors qu'aujourd'hui, il est possible d'investir en empruntant à 0% sur le marché des capitaux. Sur 5 ans, 10 ans, on peut emprunter avec des taux d'intérêt très très bas quand on est une solide entreprise, disons. Pas toi et moi, mais Gavroche, ça va être plus haut que 0%. Mais si tu es l'UBS, il n'y a pas de souci pour te financer. Donc, on ne pense pas que ça va créer des emplois.
Bernard ?
Oui, Match. Je voudrais dire qu'il faut qu'on ait bien conscience que tout ça s'inscrit dans un processus et une vision générale. Ce n'est pas simplement un problème aujourd'hui de baisser la fiscalité des entreprises sur bénéfices. Cette vision générale, on le voit bien, puisque c'est la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Il y a déjà eu deux précédentes, c'est la troisième. Et l'objectif final, évidemment qui ne sera jamais affirmé tel quel, c'est de supprimer toute imposition sur les bénéfices des entreprises. C'est ça l'objectif final. Ça sera une RIE 4, une RIE 5 ou d'autres objectifs de ce type-là. Ça, c'est le. Il faut voir l'objectif tendanciel. Pour comprendre l'enjeu politique qu'il y a derrière les modèles. Et puis l'autre aspect qui est lié à ça, c'est que la droite fait du pied deux coups avec ce processus-là. Parce qu'en diminuant les recettes des collectivités publiques, elle force à réduire les prestations publiques. Parce que ça, c'est le deuxième objectif à long terme de la droite, c'est réduire la part des collectivités publiques dans l'économie de chaque pays. C'est libéraliser un maximum de services et de prestations qui sont aujourd'hui effectués par le public, qui pourraient être réalisés par des entreprises privées, parce qu'aujourd'hui les entreprises privées sont dans une difficulté énorme qui est de trouver de nouveaux débouchés pour faire du profit. Voilà le cadre général dans lequel il faut bien voir cette modération. Ce n'est pas un problème de baisse d'impôts aujourd'hui et maintenant. C'est un processus où la droite est gagnante sur tous les tableaux, en attaquant le service public d'un côté et en empêchant des bénéfices par les baisses de la fiscalité.
C'est le programme des libertariens américains, privatiser les prisons, les hôpitaux, les écoles.
Oui. Par exemple.
Et donc, on y va.
Mais ça va dans ce sens-là. Et j'aimerais revenir sur un point qui est la question de l'emploi. Parce qu'évidemment, on est tous tremblants quand on parle de l'emploi. Et tout le monde dit, oulala, si des entreprises partent, ça va être terrible, on va avoir des pertes d'emploi. Alors, j'aimerais apporter quelques éléments qui vont un peu à contre-courant. Et je dirais que si des entreprises partent, j'applaudis dès demain. C'est une excellente chose. Pourquoi ? D'abord parce qu'un certain nombre de ces entreprises de statut spéciaux qui sont venues, comme par exemple dans le négoce des matières premières, causent des dégâts dans les pays du Sud qui ne sont pas négligeables. Et je ne vois pas quel intérêt on a à être associé à ce type d'activité économique. Deuxièmement, quand ces entreprises sont venues, la plupart du temps, elles n'ont pas créé de l'emploi neuf. Elles ont importé des emplois. C'est-à-dire que c'est des traders qui sont venus, par exemple, de Londres, à Genève, qui ont loué des appartements à des prix invraisemblables, qui ont fait monter le prix des loyers, etc. Et donc, si l'entreprise partait, de toute façon, quand elles veulent partir, elles partent. Hein. Quel que soit le taux d'imposition, un certain nombre sont déjà partis à Singapour. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont partir à Singapour parce qu'aujourd'hui, le centre de la création de richesses sur le négoce des matières premières, c'est là-bas qu'il se situe. Donc, RIE étroit ou pas, un certain nombre d'entre elles vont partir. Par rapport à ça, examinons ce qu'est l'économie genevoise. Qu'est-ce que c'est l'économie genevoise en termes d'emploi? On a le plus haut taux d'emploi du monde. Si vous prenez les statistiques de l'OCDE, la Suisse arrive en deuxième position avec 78% de taux d'emploi par rapport à la population active. 78%, c'est énorme.
Population.
Par quoi ?
Par rapport à la population.
À la population.
Oui. T'as dit active.
Ah, j'ai dit active, oui. Par rapport à la population. Ça veut dire que devant, il y a l'Islande. Mais l'Islande, c'est 300 000 habitants. Évidemment, là-bas, tout le monde bosse.
Pêcheur.
Donc, et Genève, on est au-dessus. Genève, on est au-dessus de ce taux. On a 303 000 emplois à plein temps. Équivalent plein temps. Il y a beaucoup plus d'emplois en plus. C'est pas pour rien qu'il y a, grosso modo, 100 000 personnes qui viennent de la zone frontalière travailler à Genève. C'est pas pour rien qu'il y a environ 30 000 à 40 000 personnes qui viennent travailler à Genève des autres cantons romands. Il y a une concentration d'emplois qui est énorme. Et alors tout le monde a l'air de dire, mais tout ça c'est profitable à tout le monde, c'est magnifique, etc. C'est profitable à tout le monde, non?
Non,
la montée des loyers, c'est bien dû à cette concentration de l'activité économique en Genève. Les problèmes d'infrastructure, de bouchons, etc., c'est bien dû à cette concentration sur Genève. Le développement des... On présente des entreprises dans cette zone à Genève, elles sont profitables, elles ne coûtent rien. C'est pas vrai, elles coûtent en termes d'infrastructure publique, il faut construire des écoles, il faut... Enfin, toute une série de choses. Si on baissait un tout petit peu ce taux d'emploi, je vous parie qu'on s'en porterait beaucoup mieux.
Il faudrait juste tenir compte d'une remarque, c'est que les internationaux jouent un rôle malgré tout. Et d'autre part, il y a cette volonté de banquiers, des petits fils et petites filles de banquiers privés à Genève l'ont dit, on ne voulait pas d'ouvriers dans les rues, donc on a cassé Sécheron, on a cassé Hispano-Suiza, on a cassé les Charmilles. Résultat, on est dans une économie très déséquilibrée entre le primaire, le tertiaire et l'autre.
Je prends 4 secondes et c'est vraiment sur le thème. Le mercredi 1er février, le groupe féministe de solidarité organise une soirée pour parler de l'impact particulier de la RIO3 sur les femmes qui sont majoritaires dans de nombreux secteurs ou services publics, qui forment aussi la majorité des personnes en situation de pauvreté et qui donc seront impactées par les baisses de dépenses de l'État. On sera avec une syndicaliste du SSU et Vaux, qui a une expérience en matière de ce qui s'est passé sur Vaux, et Justine Allaire, qui est donc députée de solidarité. C'est à 20h15 à l'UEG le 1er février.
Place des Grottes.
Oui, je profite de tes annonces. Le secteur social des syndicats cités SSP organise une flash mob contre la RIE3 le mercredi 25 janvier à 12h15 arrive. Donc, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, si vous pouvez relayer et venir.
25 janvier à 12h15
arrive.